En France, en 2024, un élève dont la peau est noire ne fait pas de l'école la même expérience qu'un camarade dont la peau est blanche. Non que la ségrégation prévaut dans l'éducation nationale, bien entendu. Le racisme n'y est pas plus autorisé que dans le reste de la République. Mais voilà, à la différence de ses camarades dont la peau est blanche, il peut s'entendre dire par un enseignant lorsqu'il a oublié son manuel qu'il est en quelque sorte un sans-papier. Allez, c'est une boutade, un clin d'œil à la leçon sur l'immigration au programme de ce jour-là. Et un autre jour, il peut s'entendre dire, parce qu'il ne travaille pas assez, qu'il aurait besoin d'être fouetté. Il peut aussi, à l'occasion, se poser la question de savoir pourquoi, lorsqu'à la piscine, la classe est divisée en deux groupes. Il se retrouve, lui qui sait nager depuis ses 3 ans, avec tous les autres noirs et les basanés. En maillot, ça saute encore plus aux yeux. Sans doute voit-il le racisme partout, comme on le lui reproche lorsqu'il ose s'en étonner. Mais ce qu'il perçoit surtout, c'est le déni si français du fait que les blancs sont considérés autrement. Mieux. Et c'est notamment ce déni français que tentent d'analyser deux sociologues, Solène Brun et Claire Cosquer, dans un essai important, La domination blanche. Elles sont cette semaine les invitées de La suite dans les idées.
France Culture, La suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Et c'est une réalisatrice, Anaïs Barbeau-Lavalette, une réalisatrice canadienne qui, depuis le Canada, nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission. On lui doit un film sorti il y a quelques mois, disponible aujourd'hui en DVD et sur les plateformes. Un film qui est l'adaptation au cinéma, donc, de Chien blanc, le roman de Romain Gary sur le racisme, qui permet de revisiter, dans un contexte historique différent, un certain nombre de notions dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis, troisième partie, puisqu'il y a désormais une troisième partie dans cette émission, on se demandera avec Jean-Paul Demoule, qui a peur de l'archéologie. Bonjour Solène Brun.
Bonjour Sylvain Bourmont.
Vous êtes avec moi en studio, vous êtes sociologue et vous êtes chercheuse au CNRS à l'IRIS. Et co-autrice donc avec Claire Cosquer, qui est avec nous depuis la Suisse, puisqu'elle est chercheuse à l'Université de Lausanne. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, co-autrice de La domination blanche, un livre qui paraît dans la petite encyclopédie critique des éditions textuelles. Alors, peut-être on peut, Solène Brun, commencer par une expression qui a suscité une controverse en France il n'y a pas si longtemps. On était dans cette double conjoncture, double actualité des suites, au fond, de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter. Et du Covid. Et c'est cette expression de privilège blanc qui a commencé à être utilisée, pas forcément par des gens qui la défendent d'ailleurs, mais plutôt des gens qui la critiquent, en l'important des États-Unis. Ça a été, j'imagine, pour vous, un moment qui vous a décidé, non pas que vous travailliez sur ces questions depuis si peu de temps, ça c'est beaucoup plus longtemps, mais qui vous a décidé peut-être à écrire ce livre-là. Ce livre qui nous permet de clarifier beaucoup de choses sur ces notions.
C'était en effet un moment très important et un moment peut-être pas si fréquent d'ailleurs en France où une notion qui appartient plutôt au champ des sciences sociales et qui est discutée plutôt de manière académique a fait irruption assez violemment en réalité dans le débat public français et c'est quand même ouvert à ce moment-là, donc on était en juin 2020, une séquence assez longue de débats, alors dans les médias beaucoup, par tribune interposée, autour de la notion et de la pertinence de la notion, mais finalement, peut-être plus généralement, puisque c'était le contexte à ce moment-là, autour de la question du racisme et des violences policières. Alors à ce moment-là, c'est surtout Claire qui, elle, avait d'ailleurs publié une tribune dans Le Monde à ce sujet. On en avait pas mal discuté puisque c'était plus centralement à ce moment-là ses objets de recherche à elle. Donc Claire avait voilà commencé à un peu aborder des thèmes et des idées qu'on développe ensuite dans le livre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'était déjà dit que ce serait peut-être intéressant d'écrire à deux. Sur ce sujet-là.
Claire Cosquer, le privilège blanc, d'abord d'où il vient, d'où vient l'expression, et ensuite comment est-elle reçue en France à ce moment-là?
Alors, d'où vient l'expression? C'est toujours un peu difficile de faire la généalogie d'une notion, d'autant plus quand elle a beaucoup de succès, qu'elle se diffuse dans des endroits variés, des espaces variés de la société. Pour ce qui nous concerne, on identifie généralement pas la date de naissance, mais le début de l'essor de cette notion-là dans les années 1980 aux États-Unis et également au Royaume-Uni, avec notamment sous la plume de féministes comme Peggy McIntosh, toute une production qui va se saisir de ce terme-là et notamment faire des listes aussi de privilèges blancs. Et ces listes, même si elles ont été décriées, on pourra y revenir, ont permis de populariser cette notion. Alors pour autant, elle a des origines qui sont plus anciennes et en réalité, les origines de cette pensée des avantages qui caractérise la condition blanche. En fait, il faut remonter au début du XXe siècle, voire au tournant entre le XIXe et le XXe, et notamment la pensée des premiers sociologues qui ont pensé la race, notamment Webb Du Bois. Et finalement, ce qu'on veut rappeler avec ce livre, c'est que la pensée de la condition blanche, elle est aussi vieille que la pensée de la construction sociale de la race que la pensée du racisme elle-même.
On va revenir après sur la manière dont cette catégorie des Blancs s'est construite historiquement, parce que c'est aussi une histoire passionnante. Mais pour rester sur cette notion de privilège blanc, à la fois, elle a fait l'objet de tribunes. Vous vous rappeliez celle de Claire Cosquer. Il y en a une qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle de Virginie Despentes, oui, à l'époque, à propos de l'affaire Adama Traoré.
Qui lance en quelque sorte la polémique d'ailleurs, puisque en fait, c'est en effet Virginie Despentes qui en fait écrit une lettre qui est lue à l'antenne, du coup, sur France Inter. Hein, voilà, par Augustin Trapenard.
Parce que c'est l'époque du Covid, alors exactement, on ne peut pas aller à la radio, on envoie des textes qui sont lus.
Et du coup, c'était assez joli. En tout cas, moi, j'ai trouvé comme moment. Mais donc, c'est une lettre adressée donc à ses amis blancs. Enfin, donc, elle s'intitule à mes amis blancs, puisque c'est elle qui parle, qui ne voit pas où est le problème. Et c'est intéressant parce que, comme le rappelait Claire, en fait, le texte de Peggy McIntosh qui popularise beaucoup la notion de privilège blanc est en effet en fait une liste de 50 privilèges. Et Virginie Despentes fait un peu ça en fait dans sa lettre ouverte, c'est-à-dire qu'elle commence par dire voilà, je suis blanche, et ensuite elle décrit en fait tout ce que ça lui permet de faire, tout un tas de choses qui ne sont pas permises, pas de la même manière ou pas aussi facilement pour des personnes qui ne seraient pas perçues comme blanches au quotidien dans la société. Et en effet, c'est à partir de ce moment-là qu'ensuite les choses s'emballent un peu et que là, beaucoup de gens de champs différents, c'est-à-dire qu'il y a des universitaires, mais il y a aussi, par exemple à ce moment-là, la secrétaire du Parti Socialiste.
Oui, alors ça c'est très intéressant, parce que c'est pas que du côté de la droite de l'espace public, c'est une personnalité du Parti Socialiste de l'époque, Corinne Narasiguin, qui, dans un texte au Monde, vient contester au fond l'usage de cette expression, vient dire son désaccord avec Virginie Despentes, notamment autour de cette idée de privilège, et dans une perspective très française, qui permet aussi de comprendre la spécificité française, parce que privilège, c'est pas un mot tout à fait neutre dans l'histoire de France. On pense à la nuit du 4 août, on pense à la Révolution française, et elle dit on peut pas utiliser le mot privilège comme ça. Alors là, vous avez une réfutation que je trouve très pertinente de cette critique.
Oui, alors, ben, c'est vrai que... Après, c'est vrai que c'est assez intéressant, cette manière dont le terme de privilège et donc de privilégié peut-être renvoie à des choses très singulières pour le contexte français, puisque en effet, il y a cette idée que voilà, en fait, un privilège, ça renvoie, enfin, les privilèges renvoient à ce moment de la Révolution française, et donc un privilège est forcément un privilège indu, et en tant que tel, il doit être aboli, et en France, ils ont été abolis, et donc c'est un problème de parler de privilège. À cet endroit, on dit plusieurs choses, mais une des choses qu'on dit peut-être, et je laisserai Claire compléter, mais c'est de dire que justement, il y a peut-être mécompréhension sur ce qu'on appelle le privilège, et que peut-être il y a différentes manières de comprendre la question des privilèges. S'il s'agit de dire en fait que en fait les blancs ont une position d'avantage dans la société comparée aux non-blancs, nous, ça nous paraît évident. Et le nier nous semble assez similaire à nier tout simplement l'existence du racisme. Ensuite, il y a la question de justement la nature des privilèges. C'est-à-dire qu'il y a des privilèges dont on pense qu'ils doivent être tout simplement abolis et que, par exemple, personne ne devrait prendre, par exemple, un jet privé pour faire un Paris-Bordeaux. Ça, de toute façon, personne ne devrait le faire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle en tout cas des privilèges, si on parle de privilèges blancs, qui sont plutôt de l'ordre de droits fondamentaux qui devraient en fait non pas tellement être abolis qu'être étendus à tous et à toutes.
C'est-à-dire par exemple le droit de ne pas se faire contrôler tous les 4 matins dans la rue par la police quand on a la peau noire.
Exactement.
Claire Kosker.
Oui, effectivement, un des aspects de la controverse qui a été suscitée par ce terme-là, c'était effectivement la peur d'un nivellement vers le bas. C'est-à-dire, alors typiquement sur l'exemple que vous prenez, le contrôle aux faciès, comme si abolir le privilège blanc voudrait dire qu'on souhaite que tout le monde se fasse beaucoup plus contrôler dans la rue.
Évidemment, alors, personne ne revendique une pareille chose.
Non. À ma connaissance, non. Alors, est-ce qu'il s'agit de mauvaise foi ou d'un malentendu de bonne foi ? Ça, sans doute que ça dépend des cas. Mais il y a eu effectivement cet aspect-là qui s'est invité dans la conversation. Alors ensuite, du point de vue français, c'est vrai qu'on a tendance à voir cette spécificité qui a été mise en avant, hein, d'ailleurs effectivement dans les tribunes, de la compréhension, de la tradition nationale de compréhension du terme de privilège. Mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer que la controverse, elle n'est pas complètement spécifique à la France. Elle se déploie aussi dans d'autres espaces nationaux où le terme est utilisé dans les espaces publics et intervient dans le débat public sur les inégalités raciales. Et c'est vrai qu'il y a une façon peut-être particulièrement forte en France de mettre en concurrence la question des inégalités raciales, c'est-à-dire produites par le racisme, et la question des inégalités de classe. Mais pour autant, vous trouvez également aux États-Unis, au Canada, des discours pour dire mais quel est le privilège dont bénéficient des Blancs qui sont pauvres ? Donc cette façon de résister à la réflexion « toute chose égale par ailleurs », disons, ça on la retrouve de façon beaucoup plus large que simplement dans le contexte français.
Néanmoins, ce qui se passe dans ces années 2020 en France est extrêmement important. On a un petit peu de recul aujourd'hui, quelques années. On s'aperçoit que c'est important parce que c'est avec beaucoup de retard qu'au fond, l'espace public français laisse entrer des débats qui avaient vu jour bien avant aux États-Unis, mais aussi, vous le disiez, au Royaume-Uni, mais également dans d'autres pays européens. Et il y a bien là une forme de spécificité, une incapacité peut-être plus grande qu'ailleurs en France à penser le racisme autrement que comme une seule et simple idéologie, à penser le racisme dans son caractère systémique. D'ailleurs, quand on parle de racisme systémique, on a en général beaucoup de mal à se faire comprendre parce que les gens comprennent racisme systématique, par exemple, ou racisme institutionnel. Et c'est pas vraiment de ça qu'il s'agit, en fait, Solène Brun.
Oui, je pense que en effet, il y a quand même quelque chose de très français dans ce déni. Et d'ailleurs, c'est un peu par ça, enfin c'est d'ailleurs complètement par ça qu'on ouvre le livre, hein, puisqu'on a intitulé l'introduction dévoiler l'évidence, la domination blanche et son déni. Et on ouvre le livre sur aussi les propos de Raoul Peck, ce réalisateur haïtien, qui a un texte qui moi m'avait beaucoup marqué exactement à ce moment-là, en 2020, à cette même période, qui avait publié un texte qui s'appelle, qu'il avait intitulé J'étouffe. Alors évidemment en référence au meurtre de George Floyd. Et dedans, il disait que, en gros, c'était un peu une lettre de rupture à la France, en réalité. Donc, France, pays dans lequel il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'années de sa vie. Et il a cette phrase où il dit « La France est dans le déni d'elle-même ». Et il ajoute « La France est dans le déni et ses enfants n'ont plus le temps », qui me semblait être une manière... en réalité très clairvoyante de peut-être de saisir ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire que à la fois une partie du pays qui résiste, qui par exemple ne veut pas ouvrir la discussion sur le racisme véritablement, et donc du coup le fait que ça produit des positions désavantagées pour certains et avantagées pour d'autres, et que c'est voilà consubstantiel même au fait de penser le racisme, est dans le déni de ça, et que de l'autre une partie de la population plus jeune, notamment beaucoup de ces descendants d'immigrés postcoloniaux, n'ont plus le temps, comme il dit, c'est-à-dire il y a une forme d'impatience et d'urgence qu'on a retrouvée voilà, dans les manifestations autour de la mort d'Adama Traoré, dans les échos que le mouvement Black Lives Matter a eu en France, avec vraiment, je pense, cette idée un peu de peut-être de clivage qui, ou de discussion qui n'a pas lieu, et une partie de la jeunesse qui veut parler de racisme et qui fait face à ce déni qui, en effet, à mon avis, a quand même quelque chose de très français dans sa force et aussi dans son étendue.
Claire Kosker, c'est pas un hasard si je commençais cette émission en évoquant une situation scolaire, parce que si déni il y a, il s'enracine aussi dans une conception de la République à laquelle l'école de la République est très attachée, et souvent se rend du même coup aveugle volontairement à des formes de racisme qui ne sont pas les formes les plus spectaculaires, les plus visibles, les plus violentes en fait, mais qui n'en sont pas moins des formes inquiétantes, des formes qui produisent des effets sur les personnes qui sont les victimes de ce racisme systémique, Claire Kosker.
Absolument, et le déni français, s'il se loge quelque part dans sa spécificité, c'est très probablement là. C'est très probablement dans cette conception nationale de la République, cette conception nationale de l'universalité de la République. C'est-à-dire que on pourra penser des résistances à la façon de penser le privilège blanc, parce que c'est des résistances classiques à la pensée de la domination. On pourrait trouver les mêmes quand il s'agit de penser les masculinités. C'est toujours plus facile de penser le sexisme que de penser les masculinités. On pourrait faire la même réflexion sur la classe. Donc il y a une part de déni qui vient voilà de façon assez générique, de façon assez peu original de la pensée de l'avantage pour ce qu'il est, de la domination pour ce qu'elle produit comme bénéfice. Mais ce qui est spécifique effectivement à la France, c'est sans doute une réticence particulièrement forte de penser en fait le racisme, de penser la race comme rouage de la société. Et c'est finalement cette deuxième couche de silence qui est intimement liée à la façon dont on a construit la revendication d'universalité de la République, qui fait sans doute toute la spécificité de ce déni d'elle-même dont parle Raoul Peck et que Solène évoquait à l'instant.
Alors une des manières de réduire peut-être ce déni, c'est de se donner les moyens de penser le racisme comme une relation sociale, et vous proposez le terme de domination pour le titre du livre. Dans une relation de domination, il y a un dominant et un dominé. Et donc c'est pas en s'intéressant uniquement au dominé qu'on peut véritablement comprendre les mécanismes à l'œuvre s'agissant du racisme. D'où l'intérêt de travailler sur les blancs comme catégorie. Et c'est ce que fait aussi votre livre en revenant sur la manière dont finalement les blancs ont été inventé, parce que les blancs n'ont pas toujours existé, Solène Brun.
Oui, c'est ça. On ouvre le premier chapitre par cette question qui sont les blancs et les blanches, c'est-à-dire comment les personnes qui sont aujourd'hui désignées comme blancs et blanches en sont devenues à être désignées de cette manière. Avec en effet un premier constat qui est historique, qui est que ces personnes-là n'ont pas toujours été désignées comme des blancs, a fortiori avec un substantif, c'est-à-dire avec l'utilisation du mot blanc non pas comme adjectif, mais comme un nom. Et donc on fait un peu cette histoire-là. Donc là en s'appuyant sur beaucoup de travaux d'historiens qui ont beaucoup en fait écrit cette histoire par différents bouts.
De façon inattendue, par exemple, ça commence dans la relation entre les Anglais et les Irlandais.
Voilà. Donc on rappelle cette histoire alors qui est peut-être de plus en plus racontée, mais qui voilà est un peu étonnante depuis notre point de vue européen aujourd'hui, mais qui est l'histoire qui raconte que les Irlandais n'ont pas toujours été désignés comme blancs et l'ont pas été jusqu'à assez longtemps, et qu'en fait dans la relation coloniale de l'Angleterre à l'Irlande, il y a eu une racialisation des Irlandais comme non blancs avec vraiment des descriptions descriptions qui sont très étonnantes, c'est-à-dire que qui commentent leur peau foncée, leurs traits extrêmement voilà grossiers. On trouve des caricatures aussi qui montrent des Irlandais sous les traits de singe, par exemple, donc avec en plus des stéréotypes racialisants qu'on va retrouver pour d'autres groupes de population. Mais donc dans cette relation coloniale, voilà, ou par ailleurs, enfin c'est assez intéressant de lire les historiens qui travaillent là-dessus. On apprend aussi que par exemple les premières la première colonie de plantation, en fait, a lieu en Irlande et que les Anglais, en fait, les colons anglais, voilà, établissent des plantations. Il y a tout un tas de pratiques qui, en fait, sont, alors, c'est un peu ce que suggèrent certains historiens, sont en quelque sorte testés sur les Irlandais avant d'être importés, disons, dans les autres colonies. Mais typiquement, voilà, les Irlandais ont été pendant un temps exclus du groupe blanc, qui, par exemple, aux États-Unis et dans donc l'immigration européenne aux États-Unis, était plutôt un synonyme au départ de l'identité saxonne. Et du coup, on en garde, par exemple, l'expression anglo-saxonne ou anglo-saxon, qui en fait désigne justement ce que le groupe anglo-saxon pensait être à ce moment-là, c'est-à-dire les seuls détenteurs de la blanchité. Et les Irlandais étant celtes, ils n'étaient pas blancs. Mais en fait, ce qui est ainsi très intéressant avec cette histoire, c'est que en fait, il y a toute une histoire de justement d'intégration de groupes dans, disons, les frontières à l'intérieur des frontières de ce groupe blanc. C'est-à-dire que ces frontières-là,
c'est elles bougent. Majorité qui se constitue par agrégation, au fond, de groupes. Il va y avoir le même phénomène, Claire Cosquer, aux États-Unis, avec les Juifs américains, par exemple. Et parfois, dans une forme de fragilité, d'ailleurs, dans le fait, pour ces groupes, de rejoindre la majorité.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une histoire qui est racontée, là encore, par des historiens, des anthropologues, qui raconte la façon dont il y a eu justement une trajectoire d'aller-retour hein, pour la population juive aux États-Unis et qui raconte comment en fait leur accession à cette majorité blanche est aussi une trajectoire de stabilisation de classe et d'accès aux classes moyennes et aux classes supérieures. Mais cette agrégation, ce qui est intéressant quand on parle des États-Unis, c'est que on voit qu'elle se fait dans beaucoup de cas, qu'elle se fait sur le dos des Noirs. C'est-à-dire que on a également un certain nombre de travaux historiens qui ont de travaux d'historiens qui ont analysé la façon dont certains groupes nationaux essayer de se présenter comme éligible à la naturalisation, c'est-à-dire à la nationalité états-unienne. Et au XIXe siècle, en fait, une condition pour accéder à la nationalité états-unienne était d'être reconnu comme blanc. Donc tout migrant blanc aux États-Unis pouvait demander la citoyenneté. Et donc, ça a donné lieu à un certain nombre de batailles juridiques autour de groupes nationaux qui demandaient à être reconnus comme blancs. Alors, les Syriens, ça a été le cas des Arméniens également, des Indiens aussi. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on voit de récurrent au travers de tous ces travaux, enfin d'une grande partie en tout cas, de ces travaux historiques, c'est que ce qui est mis en avant et ce qui semble quand même fonctionner dans un certain nombre de cas, l'argument décisif, disons, c'est démontrer sa distance vis-à-vis des Noirs. On pourrait reparler des Irlandais, mais un moment assez marquant de l'intégration des Irlandais dans la majorité blanche aux États-Unis, ce sont des émeutes intercommunautaires qui notamment qui avaient pour enjeu le travail sur les docks, donc des dockers irlandais qui se sont opposés à des dockers afro-américains. Et c'est cette opposition-là qui participe à faire rentrer les Irlandais dans la majorité blanche.
Alors cette domination blanche, vous la mettez dans cette perspective historique et vous vous intéressez aussi à la situation contemporaine à la fois pour essayer de comprendre ce racisme systémique qui peut parfois passer par de petites choses, de petites humiliations ou des difficultés tout simplement rencontrées dans la vie sociale pour l'entrée sur le marché du travail, à l'école on en parlait, pour accéder à un logement, enfin on va pas faire la liste ici, mais il faut pas oublier non plus, et vous y consacrez quelques pages, que cette domination blanche peut aussi prendre des formes extraordinairement violentes, des formes qui produisent des morts, des formes qui conduisent à des attentats qui ont eu lieu en Norvège, qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande, qui ont eu lieu en Allemagne, qui ont eu lieu aux États-Unis. Vous revenez sur quatre d'entre eux. On pourrait croire que la France, là encore, spécificité française, est loin de tout ça. Sauf que on a trouvé, parmi les livres que lisaient les auteurs de ces attentats de suprémacistes blancs, on a trouvé des textes de théoriciens français, Solène Brun.
Oui, tout à fait. On trouve des références très explicites, en fait, puisque un certain nombre d'entre eux, disons, non contents de commettre des attentats terroristes, donc suprémacistes blancs, laissent en fait des manifestes, voilà, qui décrivent. Et dans ces manifestes, on trouve donc régulièrement des références, en fait, à Renaud Camus, cet auteur français d'extrême droite qui théorise en fait le premier la thèse du grand remplacement. Et donc on voit des références très directes au grand remplacement, à cette théorie qui, voilà, alors elle prend différentes formes, mais qui postule que en fait il y aurait une espèce de forme de complot général où des populations non blanches vont immigrer par vagues extrêmement importantes et submerger, disons, les populations occidentales. Alors dans certaines versions, elle les submerge et ça suffit à créer la panique. Dans d'autres versions, c'est y aurait une volonté génocidaire de ces migrants-là. Mais en gros, c'est à chaque fois la question de l'immigration, la question de l'islam aussi, qui revient de manière très centrale. Et donc, déjà, c'est un premier objet d'intérêt pour nous de voir la centralité de Renaud Camus comme auteur français dans ces références-là. Et donc,
il n'est pas le seul.
Il n'est pas le seul.
Mais donc, parmi les Français.
Comment ?
Je dis parmi les Français.
Oui. Il n'est pas le seul. Mais donc, il y a une pensée, du coup, française d'extrême droite, mais qui, par ailleurs, remonte, en fait, à assez longtemps. C'est-à-dire que la contribution des théoriciens français aux théories racialistes...
Oui, depuis Gobineau.
Voilà.
On connaît, si j'ose dire. Mais donc, ça c'est un autre pan extrêmement important de votre livre. Il y a une autre question, Claire Kosker, que vous posez et dont on va sans doute avoir l'occasion de parler avec la réalisatrice qui nous rejoint, Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est la question, au fond, de ce qu'on peut faire quand on est blanc, tout simplement, pour à la fois prendre conscience de tout ce dont on vient de parler, mais aussi pour s'engager éventuellement à faire en sorte que les choses changent.
Oui, tout à fait. Alors, on y consacre effectivement un certain nombre de pages parce que ce qui nous a intéressé, c'est de retracer les débats qui ont notamment animé les milieux antiracistes autour de la place de ce qu'on a appelé à un moment, qu'on appelle parfois toujours les alliés blancs. C'est-à-dire que faire depuis une position majoritaire, privilégiée, pour aider les luttes antiracistes. Et effectivement, je trouve qu'il y a des scènes dans le dernier film de Anaïs Barbeau-Lavalette qui sont très intéressantes pour penser cette question-là. Nous, on inscrit en fait cette réflexion à la suite de l'identification de deux grands courants dans ces alliés, on va les appeler comme ça, ces alliés de l'antiracisme. Alors, il y aurait d'un côté ce qu'on appelle les néo-abolitionnistes, donc ceux qui sont d'ailleurs très nourris par des pensées matérialistes, qui viennent d'une tradition marxiste, etc., et qui estiment que pour véritablement aider la cause antiraciste, ce qu'il faut, c'est disparaître en tant que blanc, mais c'est-à-dire abolir la blanchité elle-même. Alors évidemment, c'est un objectif si ambitieux que on a parfois du mal à le saisir et qui paraît peut-être un petit peu abstrait. Et ce courant s'oppose à un autre qu'on peut décrire comme plus pragmatiste et qui est d'ailleurs identifié comme réformiste et qui lui identifie peut-être des façons un peu plus ordinaires, terre à terre, de de renoncer à certains avantages, mais aussi de mettre certains avantages au service d'un rééquilibrage social vis-à-vis des inégalités ethno-raciales. Et enfin, peut-être une forme de troisième voie qui s'est développée notamment au travers de publications assez récentes et qui ont été assez commentées dans le débat public. Et qui revendique une façon d'être à la fois pragmatiste sans renoncer à ses ambitions et finalement de pas choisir entre refuser de participer aux blagues racistes de la machine à café tout en donnant, par exemple, pécuniairement, à des grandes causes antiracistes qui ont une vision beaucoup plus systémique, beaucoup plus générale. Mais on fait effectivement on dresse ce paysage-là des débats qui agitent les milieux antiracistes et qui sont loin d'être résolus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, je pense, qui a été identifiée et tout le monde n'est pas d'accord, d'ailleurs, sur la place légitime que peuvent occuper les alliés blancs.
Voilà, vous dressez ce panorama dans ce livre dont on parle depuis le début de l'émission, coécrit par vous, Claire Kosker, avec Solène Brun, La domination blanche. On continue de parler de domination blanche, de privilège blanc, avec Anaïs Barbeau-Lavalette, qui a réalisé le film Chien blanc, adapté du roman de Romain Gary. C'est dans la deuxième partie de l'émission, et c'est après un extrait du nouvel album de Porridge Radio, A Hole in the Ground.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
You turn around and call the end.
Il a beau beaucoup été question de spécificité française depuis le début de cette émission consacrée à la domination blanche. Il en sera d'une certaine façon encore question dans la troisième partie d'actualité où l'on parlera d'archéologie et ce sera encore en lien avec la centralité de ce qu'on peut appeler le récit national. C'est l'archéologue Jean-Paul Demoule qui nous rejoindra pour en parler. Mais pour l'instant, on reste sur ces questions de domination blanche avec vous, Anaïs Barbeau-Lavalette. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avec nous depuis le Canada. Vous êtes réalisatrice et vous avez choisi d'adapter un roman que Romain Gary a écrit à la fin des années 60, alors qu'il vivait aux États-Unis en plein mouvement des droits civiques. Un roman qui a paru en France en 1970, Chien blanc. Pourquoi vous avez choisi de porter à l'écran ce film qui est sorti cette année et qu'on peut voir en VOD pour l'instant et bientôt en DVD?
Ben en fait, en relisant Le Chien blanc, donc effectivement sorti dans les années 70, où Romain Gary raconte l'histoire vécue, donc quand il était consul de France à Los Angeles, en plein soulèvement des Afro-Américains, il trouve un chien qu'il adopte et rapidement, lui et sa femme, Jean Seabrook, donc déjà très, très engagée auprès des Afro-Américains, se rend compte que le chien a donc été dressé pour attaquer les personnes noires. C'est un chien raciste, un chien de défense, comme il en existait beaucoup à ce moment-là, qui est envoyé dans les manifestations et qui, d'ailleurs, tragiquement, existe encore. On peut se souvenir que tout récemment, Donald Trump, suite aux émeutes des Black Lives Matter dans les rues, tweetait « Bring the dogs ». Donc, il y a encore ce rapport tragique de l'animal versus la peur de l'étranger. J'ai choisi d'adapter ce roman-là aujourd'hui parce que justement, j'avais l'impression qu'à l'intérieur de cette œuvre-là, il y avait une question vraiment d'actualité et extrêmement fragilisante. Puis là, je vous écoute depuis tout à l'heure, je me dis donc c'est pas qu'au Canada, c'est pas juste au Québec que ces questions-là sont fragilisantes et donc essentielles. Je pense que cette œuvre-là aborde de façon assez frontale la question du privilège blanc. Romain Gary et Jean Seabrook, étant chacun à leur façon des blancs privilégiés, choisissent d'une façon évidemment maladroite, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas ancrée et sincère, de chacun s'engager à leur façon dans la militance pour aux côtés des Afro-Américains à ce moment-là. Et je pense que la question qu'il pose, est-ce que c'est possible de s'engager au cœur d'une lutte qui, a priori, ne nous appartient pas, de laquelle nous ne sommes pas les principales victimes? Est-ce que c'est possible de le faire? Si oui, comment? C'est ça qui est au cœur de l'œuvre, en fait, et c'est vraiment ça qui me parlait. Je trouve que ça résonne encore de façon très, très profonde avec les débats actuels. Donc, c'est ça que j'avais envie de porter à l'écran puis de faire résonner.
D'ailleurs, c'est ce qui vous a conduit, Anaïs Barbeau-Lavalette, à faire du personnage de Jean Seabrook un personnage central du film, alors même que dans le roman, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui vous intéresse, c'est au fond de faire contraster des formes de militance ou d'engagement différentes. Des formes plus personnelles, peut-être, plus individuelles pour Romain Gary, et des formes plus publiques s'agissant de Jean Seabrook.
Oui, tout à fait. Donc, c'est d'ailleurs ce qui vient se faire fracasser le couple et dans la vie et dans le roman. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un ancrage, un point de vue différent à la juste façon de s'engager. Romain Gary le fait par l'écriture et en ayant cette espèce de fixation sur l'animal, le chien dont il fait un monde ou vraiment une métaphore. Et en voulant soigner le chien, il confie à un dresseur noir dans un chenil et le chien va être donc dressé à l'envers. C'est comme ça que se finit le roman, c'est comme ça que se termine le film aussi. Jean Seabrook, elle, de façon plus ou moins consciente, et c'est ce que j'essaie de mettre en lumière dans le film, utilise son pouvoir blanc, son privilège blanc, donc de femme riche, belle, connue, populaire, pour attirer l'attention médiatique sur les soulèvements des Black Panthers à ce moment-là. Est-ce que c'est adroit? Je pense pas. Elle se fait dire. Est-ce que c'est malhonnête? Non. Et il y a quelque chose d'hyper pertinent à se re-questionner encore aujourd'hui, ben justement cette question du bon allié, comment être un bon allié. Il y a un moment où dans le film, en essayant de faire ce qu'elle pense être dans son pouvoir, donc d'attirer les médias vers une manifestation, elle se fait dire, mais c'est notre guerre, laisse-nous ce qu'il nous reste. Puis au final, you make it all about you, tout devient autour de toi finalement, ça devient toi le personnage central de notre lutte, tu nous enlèves tout ce qui nous reste. Donc c'est fragilisant même comme personne blanche de recevoir ce film-là, et je dirais même que c'est fragilisant de réfléchir à comment on fabrique un film comme ça aujourd'hui, à notre époque. On peut pas fabriquer un chien blanc, aborder la question du racisme et du privilège blanc sans rentrer dans la conversation des interlocuteurs sensibles, des cinéastes qui ont réfléchi à la question du privilège et du white savior, du fameux sauveur blanc. Donc, dans la fabrication même du film, on a vraiment établi un dialogue avec des afro-descendants ici au Québec. Et je pense que ça, c'était une primeur, dans le sens où c'est d'habitude des conversations qu'on mène en vase clos parce qu'elles sont extrêmement fragilisantes d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'on a le droit d'aborder ces questions-là, oui ou non, comme cinéaste, comme artiste? Et dans les conversations qu'on a eues pendant la fabrication du film, il y a vraiment des dialogues profonds qui ont été établis à tous les paliers de la fabrication du film, en fait, autant au niveau du scénario que de la réalisation, que de certains choix de mise en scène. Et comme metteur en scène, c'était assez fragilisant par moments, mais ça a rendu le film, j'ai l'impression, plus conséquent dans sa matière même, dans sa fabrique, parce qu'au final, il a vraiment été construit autour d'un dialogue, en fait, avec la communauté afro-descendante du Québec.
Solène Brun, vous avez vu le film, Claire Cosquer aussi d'ailleurs, Solène.
Oui, je l'ai vu, et en effet, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. De voir à quel point aussi les débats n'ont finalement pas beaucoup bougé, mais peut-être parce que justement il est tellement difficile de trouver une réponse à cette question, et c'est ce qu'on dit aussi dans le livre, c'est que c'est une question qui est d'ailleurs pas spécifique au rapport social de race, c'est une question qui est très actuelle en ce moment par exemple pour les mouvements féministes qui se demandent quelle place doivent ou peuvent occuper les hommes qui occupent la position dominante dans le rapport social de genre. Et je pense qu'elle est à la fois, elle est essentielle cette question, et elle est extrêmement compliquée, parce que, et c'est ce qu'on voit très bien dans la position de Jean Tiberg, je trouve ça, en fait je l'ai trouvé aussi très généreux ce film, parce que comme vous dites madame, il y a cette idée que à la fois elle est maladroite, et c'est vrai, on le voit et on se dit en effet c'est maladroit, et en même temps elle a l'air très sincère, et les deux sont pas du tout incompatibles. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant d'aller aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire d'aller à l'endroit où justement, alors qu'on croit bien faire, alors qu'on a tout un tas de très bonnes intentions, mais y compris qu'on a réfléchi à plein de choses, finalement on reproduit une situation dans laquelle, malgré tout, eh bien, parce que c'est comme ça aussi qu'on a été socialisé, parce qu'on ne sait pas faire autrement, on se remet soi-même, la personne blanche, au centre du sujet, au centre du débat, alors que justement l'idée était de se décentrer.
Claire Cosquer, Solène disait à l'instant, on n'a pas vraiment avancé. Enfin, il y avait quelque chose quand même pour un écrivain français d'assez précurseur chez Romain Gary dans ce roman. Et on se dit, au fond, les choses étaient peut-être intellectuellement plus fortes dans la relation franco-américaine à cette époque où Gary, aux États-Unis, écrit ça, mais aussi James Baldwin, que vous citez beaucoup dans votre livre avec Solène Brun, vivait en France en grande partie et irriguait aussi la vie intellectuelle des deux côtés de l'Atlantique.
Oui, ces liens transatlantiques, ils sont très intéressants pour faire l'histoire de la pensée, qu'elle soit politique ou qu'elle soit plus scientifique, de cette analyse politique ou cette analyse scientifique du racisme. En fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup d'aller-retour et qu'il y a un moment où les États-Unis importent beaucoup d'outils d'analyse de la vie intellectuelle française. On peut penser à Frantz Fanon, par exemple, qui a été extrêmement utilisé et commenté aux États-Unis, et d'autres moments où, en fait, dans le débat public français, on subit l'accusation d'importer des concepts des États-Unis sans faire attention à leur pertinence pour penser un contexte français. Et finalement, de retracer tous ces allers-retours, et effectivement, c'est un épisode intéressant de ces allers-retours, le moment que vit Romain Gary et auquel il participe. Et pour revenir sur peut-être les échanges précédents, moi, il y a vraiment une scène que je trouve particulièrement intéressante dans ce film, alors sans tout dévoiler évidemment, pour aborder cette question de la place blanche dans les luttes antiracistes, c'est finalement une dispute entre Jean Seberg et Romain Gary, où effectivement Romain Gary lui reproche quelque part de sa maladresse en lui disant "You make it all about you." Mais Jean Seberg répond et rétorque en retour, alors sans doute par frustration, mais peut-être qu'elle n'a pas complètement tort, que lui, de notre côté, ne fait rien. Et tout en n'oblitérant pas, bien entendu, la maladresse de Seberg, je trouve que cet échange, il cristallise quelque chose d'important, qui est aussi qu'à faire trop preuve de prudence et à trop chercher une respectabilité parfaite, c'est aussi facile de ne pas prendre de risques et finalement de ne rien faire du tout.
Anaïs Barbeau, Lavalette, je vous redonne la parole brièvement parce qu'on va arriver au terme de l'échange, mais vous partagez ce point de vue qu'énonce à l'instant Claire Kosker?
Ben oui, justement, je trouve ça hyper intéressant parce que je reviens à la fabrication de ce film, on s'est posé toutes ces questions-là et on s'est dit, chacun de nous, la communauté blanche ici, les artistes qui se mettent veut pas quelque part dans la peau de l'autre pour essayer de faire porter une parole ou quelque chose qui les choque. On marche vraiment sur des œufs ici avec les questions d'appropriation culturelle, avec raison. Et d'un commun accord, cette fois-ci, on a pris le risque, la communauté afro-descendante ici, les consultants avec qui je travaillais, ont pris le risque du dialogue, quitte quelque part à se faire condamner par une partie de leur propre communauté en participant à la réflexion autour de ce film-là. Donc, il y a vraiment une peur de... C'est très fragilisant de tous les côtés et j'ai l'impression qu'on a fait un pas dans la fabrique de ce film-là parce qu'on s'est dit, nous prenons le risque de le réfléchir ensemble, ce privilège blanc, de le re-questionner. Et je pense que l'art est un bon médium pour prendre ces risques-là, en fait.
Mais de ce point de vue, au Canada, vous avez aussi un peu d'avance. Je pense à la polémique qu'a suscité l'utilisation de Sensitivity Reader par Kevin Lambert l'an dernier, grand romancier canadien.
Oui, ben les questions sont vraiment toujours en ébullition, puis elles concernent aussi évidemment les Premières Nations. On recense aussi, on questionne beaucoup le racisme systémique dont vous avez parlé pendant l'émission. On décortique ce terme-là qui est toujours ramené dans l'actualité en fait. On n'a pas fini de discuter de tout ça. Ça reste pertinent, mais peut-être effectivement qu'on a quelques pas d'avance.
Ça, j'en doute pas un instant. Merci Anaïs Barbeau-Lavalette. Chien blanc, donc on pourra de nouveau le voir, parce qu'il était sorti en salle, mais au printemps dernier, on pourra de nouveau le voir en VOD et en DVD. Enfin, on peut déjà le voir en VOD, on pourra le voir en DVD bientôt. Et je rappelle le titre du livre de Solène Brun et Claire Kosker, La domination blanche, qui paraît aux éditions Textuelles.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité pour terminer cette suite dans les idées. Qui a peur de l'archéologie? La France face à son passé, c'est le titre d'un livre co-signé par Jean-Paul Demoule et Alain Schnapp, tous les deux professeurs émérites d'archéologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour Jean-Paul Demoule.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas en Belgique parce qu'on a eu déjà la Suisse et le Canada, mais vous êtes dans le sud de la France avec nous. Vous publiez ce livre aux éditions Les Belles Lettres pour essayer de comprendre au fond pourquoi une autre spécificité française, pourquoi la France, à la différence de beaucoup d'États comparables alentour, a tourné le dos à l'archéologie, non pas à l'archéologie en général. Les Français ont mis en valeur les fouilles réalisées dans des territoires partout dans le monde, mais les fouilles archéologiques qui ont été réalisées sur le sol métropolitain.
Oui, 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 effectivement. C'est dans toutes les capitales du monde, vous avez un grand musée au centre de la capitale qui expose tous les trésors archéologiques de la nation. Et si vous allez à Paris, vous avez le Louvre, où vous ne trouverez des objets que l'Orient, la Grèce et Rome. Hein, parce que l'archéologie est chargée d'exalter un passé glorieux, et le passé glorieux des élites françaises dès le 18e, et même on peut remonter à la Renaissance, c'est l'Orient, la Grèce et Rome. Et si on veut voir des objets Sorti de l'actuel territoire français, il faut aller au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, qui a toujours été délaissé par les pouvoirs. Aucun président de la République n'a pensé en faire son grand projet. Et donc, une des raisons, c'est qu'effectivement, l'histoire de beaucoup de pays commence par une grande victoire. On sonne la cloche de l'indépendance aux États-Unis. Le Germain Arminius écrase les armées romaines en l'an 9 de notre ère, mais nous on commence par une défaite qui est celle d'Alésia face aux Romains, donc c'est pas très bien, pas facile de commencer par une défaite, et les Romains, les Gallo-Romains eux-mêmes vont être battus par les Francs qui vont envahir effectivement la Gaule avec Clovis, et les Francs eux-mêmes, ils disparaissent puisque nous sommes en train de parler français, mais c'est une langue romane et pas du tout une langue germanique comme celle que parler Clovis, donc c'est très très compliqué et on va retrouver ça et jusqu'à nos jours et même ces derniers mois, c'est une espèce de dédain, de déconsidération pour l'archéologie du territoire national. Les Français vont fonder en 1846 l'école française d'Athènes, le plus vieil institut archéologique du monde. Il faut attendre 2002 pour qu'ils créent l'Institut national de recherche archéologique préventif pour faire les fouilles archéologiques juste avant les grands travaux qui ne cessent de détruire les sites archéologiques.
C'est pour ça que vous parlez de peur de l'archéologie en faisant toute cette histoire, au fond, de ce qui ne s'est pas fait.
Oui, à chaque fois, c'est une suite d'occasions manquées. Hein. Sous François Ier, il y a le connétable de Montmorency qui passe à Nîmes et qui dit quand même il faut empêcher qu'on détruise tous les monuments romains. La Révolution, on essaie de créer un grand musée national, mais qui sera dissous par la Restauration. On crée sous la monarchie de Juillet une inspection des inspecteurs des monuments historiques, mais ça se contentera de regarder les monuments. En 1913, on crée effectivement la loi qui définit les monuments historiques et leur protection, eh bien le volet archéologique disparaît. Et quand on commence effectivement à faire de l'archéologie préventive à partir des années 70, c'est-à-dire quand il y a une sensibilité croissante des citoyens face à la destruction des sites, eh bien chaque année ou presque, on écrit un rapport pour dire qu'effectivement il faudrait faire quelque chose, mais la plupart du temps il ne se passe rien et on continue d'ailleurs à enfiler les rapports jusqu'à aujourd'hui.
Alors on va venir à la situation contemporaine, Jean-Paul Delhoulle, mais quand même, ce livre est le produit d'une histoire récente, enfin d'une histoire de ce qui est une petite période de temps, on regarde la temporalité qui vous occupe, des 50 dernières années durant lesquelles il s'est passé quelque chose, l'histoire dont vous avez été le contemporain comme archéologue, et vous n'avez pas été tout seul parce que c'est une histoire collective, c'est une histoire de génération aussi, dites-vous, qui a fait quand même sacrément bouger les choses. Et moi j'ai été un peu ému en lisant sur la première page de votre livre qu'il était à la mémoire de trois personnes, et sur ces trois personnes, il y en a deux qui sont des gens extrêmement importants pour moi, qui m'ont beaucoup appris. Philippe Guillemin, qui était diplomate et qui a sans doute été le diplomate qui a le plus fait pour les sciences humaines et sociales dans toute l'histoire de la République française. Et puis Pierre Encrevé, qui était un linguiste en particulier, sociolinguiste à l'École des études en sciences sociales, qui a également beaucoup fait pour la politique en matière de recherche archéologique.
Oui, il a été d'abord le conseiller de Michel Rocard quand il était Premier ministre, et ensuite il a été le conseiller de Catherine Trottmann quand elle était ministre de la Culture. Et c'est
on lui doit la réforme de l'orthographe aussi, on lui doit beaucoup de choses, la reconnaissance des autres langues de la République française. Mais là, sur l'archéologie, comme Guillemin d'ailleurs, ce sont des gens, mais vous faites partie de ces gens, de ce groupe de gens qui, avec l'INRAP, avaient vraiment changé les choses.
Bah, c'était eux, c'est la génération, la demi-génération juste avant nous. Nous, on est la génération 68 du baby boom. Et effectivement, quand on arrive sur le marché du travail dans les années 70, on est effaré parce que tout est détruit partout. Tout le premier réseau d'autoroutes est construit sans aucune fouille préventive, alors que maintenant on trouve un site important tous les kilomètres. Donc on a consacré une grande partie de notre vie à nous battre pour effectivement qu'il y ait une archéologie digne de ce nom. Mais on était un peu jeunes au début et effectivement, les gens qui sont... Ce livre est dédié, Philippe Guillemin, Pierre Encrevé ainsi que Max Carrien nous ont aidés à une époque où on n'avait pas encore les moyens d'agir tout seul. On pouvait faire pression, on avait fondé une revue militante qui existe toujours, Les Nouvelles de l'archéologie. On pouvait faire des pétitions, des campagnes de presse, etc. Mais il y avait quand même, pour influer au niveau du politique, ces trois personnes qui ont effectivement, il y en a eu d'autres, mais c'était parmi les plus décisives, effectivement.
Alors dans cette alliance entre demi-générations, on a vu aboutir de cette alliance une forme d'institutionnalisation quand même, de prise au sérieux de la recherche archéologique avec l'archéologie préventive qui devenait un domaine à part entière du ministère de la Culture.
Oui, on était énormément en retard et c'est seulement avec la loi de 2001 sur l'archéologie préventive qu'il est devenu obligatoire que les casseurs soient les payeurs. C'est-à-dire que les aménageurs payent pour les fouilles archéologiques, ce qui représente 1 ou 2% général du coût des travaux et qui est répercuté sur les clients. Donc c'est complètement indolore. Donc c'était pas un problème réellement financier de faire les fouilles préventives, c'était essentiellement un problème culturel de rapport avec le passé. Donc en 2001, on a pu obtenir cette loi qui, dans la foulée, créait l'INRAP, l'Institut de Recherche Archéologique Préventive. Mais peu de temps après, ça a été remis en cause par le changement de majorité parlementaire qui a dit « mais quand même, ça c'est un marché comme un autre et donc il faut tout mettre en concurrence, etc. » On a limité les dégâts, mais la situation est quand même pas complètement satisfaisante, même si elle n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait connaître dans les années 50, 60, 70.
Je vous laisse, il nous reste une grosse minute, Jean-Paul Demoule, pour justement caractériser cette situation actuelle. On a encore trop peur de l'archéologie.
Absolument. La ministre de la Culture actuelle a fait des déclarations en début d'année en disant qu'il fallait pas creuser un trou pour le plaisir de creuser un trou. Le député Éric Ciotti a fait annuler des prescriptions archéologiques dans la vallée de la Vésubie où il fallait faire d'énormes terrassements. Donc il y a toujours quelque chose, il y a toujours en arrière-fond une espèce de suspicion sur l'archéologie du territoire national qui est forcément moins noble que celle de la Grèce, de Rome ou de l'Orient.
Et vous lancez une piste dans ce livre pour un futur ou une future présidente de la République en disant, après tout, là on a eu la Cité de la langue française, bon, on pourrait avoir un projet présidentiel qui serait de créer ce grand musée archéologique qui manque à la République française.
Oui, qu'il soit vraiment au centre de la capitale, où on aille vraiment, où si on garde celui qui est à Saint-Germain-en-Laye, qu'il y ait au moins un grand centre d'interprétation dans l'île de la Cité, qui se vide justement des tribunaux, bientôt de la préfecture et en partie des hôpitaux. Il y a de quoi faire quelque chose et qui existe dans tous les pays du monde, ne serait-ce qu'à Berlin au hasard. Donc c'est la piste désespérée qu'on continue à lancer, mais qui jusqu'à présent a eu très peu d'écho politique.
Merci Jean-Paul Demoule. Je rappelle que vous copubliez avec Alain Schnapp aux éditions Les Belles Lettres qui a peur de l'archéologie, la France face à son passé. Et puis dans cette émission, on a parlé de la domination blanche de Solène Brun et Claire Cosquer, qui paraît aux éditions Textuelles, et on a parlé du film Chien Blanc de Anaïs, je cherchais son prénom, Anaïs Barbeau Lavalette, la réalisatrice qui était avec nous depuis le Canada. Vous trouvez toutes les références sur la page de La Suite dans les idées, où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast via l'application Radio France. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. À la réalisation, Jean-Christophe Francis.